Marché aux puces, Pierre Grandjean.
Je suis venu dire adieu à un copain, Claude Nobs, 3. Je suis venu dire adieu à notre copain, Claude Nobs, chapitre 3. On parle du festival, bien sûr. La dernière fois, on était resté avec le chanteur de blues, formidable chanteur, merveilleux bonhomme, Muddy Waters, qui chantait Rolling Stone. Eh ben, on va redémarrer avec les Rolling Stones. Et c'était avant le festival. Si vous vous rappelez, dans l'épisode numéro 2, j'ai évoqué le fait que les co-organisateurs du festival, Géo Voumard, René Langel, que Claude avait demandé « aidez-moi à démarrer quelque chose », étaient complètement branchés de jazz. Et ils voulaient un festival de jazz, ça s'appelait Festival de Jazz. Ce que Claude avait oublié de dire ou pas vraiment précisé, que les autres n'ont pas vraiment vu ou refusé de voir, c'est qu'il avait déjà fait du rock'n'roll avant à Montreux et qu'au fond de sa tête, les choses étaient très claires. Ce que je veux, c'est un festival de toutes les musiques qui marchent. Et on ne pouvait pas ignorer le rock'n'roll. En 1964, Rose d'Or de Montreux, Raymond Jossy dit à Claude, il me faut quelque chose pour animer un peu toute cette histoire, les gens s'embêtent. Je vous ai déjà raconté ça d'ailleurs. Et Claude dit, bon, très bien, je vais à Londres, il y a un groupe qui est en train de démarrer, là, dont on parle pas mal, c'est les Beatles, je vais les voir. Et il les rencontre, et pas de chance, c'était pas possible pour les dates. Et quelqu'un lui dit, mais attends, il y a un groupe qui est pas mal aussi en ce moment, qui commence à pas mal faire parler de lui, ça s'appelle les Rolling Stones. Claude va les voir et leur dit, est-ce que ça vous dit les gars, les tout jeunes, je crois qu'il y en avait qu'un, Billy Wyman, sauf erreur le bassiste, qui avait plus de 20 ans, tous les autres les avaient même pas, 18, 19 ans comme ça, ils disent, bien sûr que ça nous intéresse de venir à Montreux, surtout s'il y a les gars de la BBC et tout ça, ça c'est un truc pour nous. Et le concert a lieu à Montreux. Malheureusement, il n'existe que quelques photos, mais les photos sont tout à fait parlantes. On les voit là. Qui c'est celui-là? Je crois que c'est Brian Jones en train de serrer la pince à un douanier au pied de l'avion, et le groupe en train de répéter sur la fameuse scène ronde que je vous ai dit, où les demoiselles du casino se déshabillaient après les concerts pour leur numéro de striptease, les Rolling Stones. Bon, on va les écouter. Le tube de l'époque qui va devenir le tube une année plus tard. I can't get no satisfaction.
I tried.
On a souvent prêté à Claude probablement des intentions qu'il n'a pas eues. Comme des fois, on lui en a pas reconnu d'autres qu'il avait. De mettre du rock dans un festival, pour lui, c'était normal. Au milieu des années 80, d'ailleurs, il va essayer de laisser tomber le mot jazz. Et puis, il va y revenir, s'apercevant que finalement, c'est une étiquette, festival de jazz de Montreux, comme on parle du septembre musical pour la musique classique, même si ça n'a pas vraiment lieu qu'au mois de septembre. Alors, ce festival de jazz va se faire de rencontres, on l'a vu, mais aussi souvent de coups de hasard incroyables. On en a déjà parlé, le Casino brûle pendant un concert de Frank Zappa, nous sommes en 1971. Il va falloir trouver autre chose, on ne va pas reconstruire du jour au lendemain un casino. Et cette autre chose sera le pavillon du palace, qui se trouve donc en face du palace, le long du lac, où on faisait des matchs de rink hockey, des soirées dansantes, on faisait un peu de tout. Et aussi du jazz. Moi, j'ai écouté là-bas Gary Burton à cette époque avec Larry Coryell, parce que le casino n'était pas disponible. Où il y avait eu des concerts de Yes ou de John Mayall. Il y avait même une boîte au-dessus qui s'appelait le Strobe, je crois. Mais je ne suis plus très sûr de ça. Et ce hasard fait bien les choses. Cette année-là, Claude fait venir Stan Getz. Nous sommes en 1977. Je ne crois pas que ce soit la première venue de Stan Getz. Stan Getz, c'était la bossa nova, la fille d'Ipanema, enfin des trucs formidables. C'était le charmeur au saxophone ténor par excellence, qui, entre parenthèses, charmeur qui avait une tronche pas possible, mais qui était en même temps un type absolument délicieux, quand il était bien luné. Ce qui arrivait quand sa femme n'était pas dans les parages. Mais ça reste entre nous. Et Getz débarque avec un groupe de jeunes inconnus. Les jeunes inconnus ne vont pas le rester longtemps. Tony Williams à la batterie, bon, on connaissait déjà un peu parce qu'il avait à peine 18 ans qu'il jouait déjà avec Miles Davis. Mais à la contrebasse, il y avait un dénommé Stanley Clark. Personne n'avait jamais vu jouer de la contrebasse comme ça. Les doigts volaient littéralement sur l'instrument, n'avait l'impression qu'il ne faisait aucun effort et que le son, c'était une vraie contrebasse, c'était pas une basse électrique, la vraie, la double maître, la grand-mère. Que le son sortait avec un volume considérable, ce Stanley Clark. Revenu d'innombrables fois à Montreux, c'est un des contrebassistes clés dans la musique contemporaine. Et au piano, il y avait un jeune rigolo qui s'appelait Chick Corea. Thank you. Stan Getz, Stanley Clark à la contrebasse, Tony Williams à la batterie, et puis Chick Corea au piano. Vite une petite parenthèse, je me rappelle de Stan Getz qui débarque dans la régie d'enregistrement de la radio romande au premier étage de ce pavillon du palace pour dire « Où sont les bandes ?» Nous, naïvement, elles sont là. Il a tout ramassé, il est parti avec. On l'avait un peu saumâtre. Enfin bon, le disque était sorti après, juste après chez Polydor. Il ne voulait pas être enregistré, ça l'avait été, il s'en était rendu compte, il n'était pas stupide. Il a dit, il n'est pas question que ces bandes se baladent dans la nature, le concert est absolument remarquable. Ce qu'on vient d'écouter est une copie du LP qui était sorti chez Polydor à l'époque. Alors, parler de Getz, ça va de soi, on préfère 10 émissions sur Getz, mais ce n'est pas le sujet. Là, c'est toujours parler de notre ami Claude Nobs, ou de ce qu'il a fait, ou de ce qu'il va faire. Chick Corea va venir une vingtaine de fois finalement, jusqu'à cette année au Festival de Jazz. Et Claude avait des grands projets de ce côté-là. On s'était rencontrés il y a une année. Il avait sorti sur DVD tout ce que Corea avait fait lors de ses différentes venues. Il m'a dit, écoute, on va travailler là-dessus, on va faire un coffret intégral des DVD de Chick Corea. Eh ben, c'est un projet. Oh, peut-être que Mathieu Jaton, l'actuel secrétaire général qui va reprendre les rênes du festival, voudra peut-être mener à terme, mais ça, je ne sais pas. Mais pour l'instant, bon, ça dort. J'ai comme ça pas mal de petits trucs. Mais ce n'était pas la seule chose. Très souvent, au chalet, chez lui, ou à Montreux, dans son petit studio d'enregistrement, il faisait venir des artistes, s'ils étaient là quelques jours avant, ou s'ils restaient 2-3 jours, ce qu'il adorait, parce que Claude adorait leur montrer le pays. Claude aimait profondément cette Riviera, les Hauts de Montreux, les Rochers de Nez, se promener du côté de Jaman, tous ces trucs. Il connaissait chaque coin, il avait couru quand il était encore enfant avec son père et sa mère. Son père qui était boulanger, donc le seul moment de congé, c'était le week-end. Alors hop, on partait, on avait un petit chalet là-haut, et on faisait des barrages dans la rivière, et on faisait des cabanes dans les bois, et on allait aux champignons. Plus tard, Claude ira quand il est avec les Louveteaux, avec les scouts. Et finalement, il y habitera. Et le sort est incroyable. Il va avoir cet accident de ski de fond sur des chantiers qu'il connaissait par cœur. Il les avait parcourus des dizaines de milliers de fois. Bref, il aimait que les musiciens restent là. Il aimait les recevoir chez lui, leur montrer son pays. Ce pays, il l'adorait véritablement. Et il a fait beaucoup de choses. Bien sûr, pour son bénéfice, c'était quand même son boulot. Mais surtout pour le bénéfice de Montreux, de cette région qu'il aimait, qu'il fallait mettre en avant. Et donc, chez lui, il invite des artistes et il les enregistre souvent. Il y avait un piano à queue, même plusieurs. Par exemple, en 1998, une chanteuse pianiste qui s'appelait Dorothy Donegan. C'était une fille incroyable. Son numéro principal, parce qu'elle chantait, elle avait une perruque magnifique. en général au rappel, elle s'arrangeait pour qu'on sache que c'était une perruque en se secouant tellement que la perruque tombait par terre. Les filles, mais c'était une pianiste magnifique qui avait rencontré tous les grands du jazz, Duke Ellington, Fats Waller, etc., etc. Et Claude réussit à la convaincre de venir enregistrer au chalet une série d'hommages. Et elle va jouer le jeu d'une manière formidable. Je dis jouer le jeu parce que sur scène, quelquefois, elle avait fait le conservatoire, elle avait une tendance à citer les grands musiciens classiques. Alors c'était presque un peu pesant. Le vol du Bourdon revenait systématiquement ou presque dans ses improvisations. Enfin, j'exagère un peu, mais pas beaucoup. Et là, elle a vraiment, Claude lui a dit, tu me fais s'il te plaît, vraiment stricto sensu, le plus près possible de l'esprit de l'original. Alors on va écouter un inédit sorti des collections de Claude, enfin pas vraiment des collections, parce qu'il me les a donnés en me disant « travaille un peu là-dessus, on va refaire des vinyles comme au beau vieux temps avec Dorothy Donegan, on pourra faire trois vinyles, il y en aura un consacré aux frères Gershwin, des traditionnels, si on peut dire des standards du jazz, un consacré à Duke Ellington et un consacré à Fats Waller ». Alors c'est un extrait de ce disque en préparation, verra-t-il le jour, je ne sais pas, qu'on va écouter, joué par Dorothy Donegan, hommage à Fats Waller. Dorothy Donegan, vraiment Claude s'est très très bien entendu avec elle. Quand on a appris le décès de Claude, là, c'était terrifiant. Et ma femme prend le téléphone et Vicky, qu'elles se connaissent depuis une éternité ou presque, lui dit, ça fait un choc. Et je me suis aperçu, d'abord ma femme est plus touchée que moi dans cette histoire. Vicky, j'en parle pas, effondrée. Et je me suis aperçu que les femmes ont adoré Claude. Et il leur a rendu, à sa manière. Je pense à Sabine Nicole, la camarade d'école, ou presque. Ils sont presque mariés à un moment. Mais Sabine, même si ce mariage, elle y croyait, n'a pas eu lieu, elle était follement éprise de Claude, elle l'adorait, il pouvait faire tout ce qu'il voulait, on le pardonne toujours. Jacqueline Danvilain, qui a été l'assistante de l'époque Warner, parce que Claude a joué un rôle très important sur le plan européen pour la Warner. Il a été représentant européen à ce niveau-là, accompagné tous les artistes en concert de Phil Collins à Rolling Stone, tout ça. Et il y avait encore Jacqueline Danvilain, Jackie bien sûr, Vicky Voca, qui était celle qui l'a entourée, qui était devenue, au départ d'André Bucher, qui a beaucoup compté pour Claude, même si c'était une relation d'amour et de haine, parce qu'ils se supportait pas et puis il se tombait dans les bras. Et Vicky qui a repris un peu au bras levé, qui voulait plus tellement, puis qui s'est retrouvée dans cette histoire, mais par amour, par amitié pour Claude. Et les femmes ont compté pour lui. Dorothy Donegan, toutes les artistes qui sont venues, Aretha Franklin, les gens l'adoraient, les dames l'adoraient, peut-être plus que les hommes. Et il y en avait une autre qui s'appelait Nina Simone. Mais elle adorait Claude. Mais là aussi, il y a eu des relations tellement conflictuelles parce qu'elle voulait beaucoup d'argent et elle n'en avait jamais assez. Et puis, elle faisait des chantages. Mais peut-être que la meilleure musique qu'elle a sortie, Nina Simone, c'est dans ses rares concerts montreusiens. Et le premier concert de Montreux, je crois qu'elle est venue lors du deuxième festival de jazz. La bande a été piratée et sortie sur disque. Claude était fou de rage. Est-ce que c'est elle-même qui s'est arrangée pour que ça sorte ? On ne le saura jamais, mais la musique était drôlement belle. Nina Simone. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. I don't please this. Liz Taylor is not a star. And even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care.
Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me.
Encore dans les projets de Claude, je vous l'ai dit, il avait ce truc, on va faire des vinyles comme au beau vieux temps, des trucs formidables, tu vois, des sessions originales. Brad Mehldau, un pianiste d'aujourd'hui, Brad Mehldau, musique de film, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Brad est venu au chalet sans problème, s'est installé au picotin, assis au piano, nous sommes en 2009, et là il rend hommage à Duke Ellington. Bon, ben on se retrouve un de ces jours. Mon copain, notre copain Claude Nobs, quatrième épisode. J'espère que vous serez sur Voxinox. À bientôt.